Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutuc que je salue. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Un soutien durable aux PME, c'est ce que promet ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire, mais le Covid crée d'autres besoins et d'autres secteurs se rappellent aux bons souvenirs de l'exécutif. Le logement bombe à retardement avec les loyers impayés, le risque d'expulsion, comment continuer à se loger, vous entendrez les inquiétudes des étudiants dans un instant.
Alors que se tient ce matin à l'Élysée un conseil de défense sur la crise sanitaire, des membres de l'opposition mais aussi des marcheurs font pression pour que les masques obligatoires dès la semaine prochaine dans le secondaire soit distribué gratuitement.
Aux collégiens, lycéens, au nom de la lutte contre les inégalités.
Et puis à la une, à l'étranger, Donald Trump officiellement adoubé par les républicains.
Pour la présidentielle de novembre aux États-Unis, l'actuel locataire de la Maison-Blanche accuse les démocrates de vouloir voler l'élection. En cause, selon lui, les fraudes possibles avec le vote par correspondance en ces temps de coronavirus.
Et puis la question du jour dans une dizaine de minutes, Catherine, l'empoisonnement politique en Russie. Que nous enseigne l'histoire? Je poserai la question à Andrei Kosovoï, il est maître de conférence en histoire russe à l'université de Lille.
Elles auront plus d'un an pour rembourser les prêts garantis par l'État avec des taux d'intérêt compris entre 1 et 3%. Les petites et moyennes entreprises bénéficieront d'un soutien durable de la part du gouvernement. Elles bénéficieront aussi d'un nouveau système d'emprunt à très long terme. C'est ce qu'assure Bruno Le Maire ce matin dans un entretien accordé aux Échos le jour où le plan de relance aurait dû être détaillé. Mais on le sait, il faudra attendre la semaine prochaine. Priorité à la crise sanitaire avec un conseil de défense qui se tiendra dès 10h ce matin à l'Élysée. Mais l'urgence est également social. Le Secours catholique alerte sur le sort de milliers de Français qui passent en cette rentrée de la précarité à la pauvreté. Avec les loyers impayés, la Fondation Abbé Pierre craint, elle, une vague d'expulsions locatives et parmi les précaires, les étudiants, parfois privés de petits boulots cet été ou de stages rémunérés. Se loger à quelques jours de la rentrée devient donc très compliqué, Thomas Larabi.
Oui, les associations sont déjà sur le pied de guerre avant même le mois de septembre. Exemple à Strasbourg où l'asso étudiante AFGS lance pour la 4e année de suite son opération SOS Canapé. L'idée est mettre en relation des étudiants sans logement et des personnes prêtes à les accueillir chez elles quelques jours. Et avec la crise sanitaire, la rentrée s'annonce chargée pour le président de l'association Jean-Valentin Foury.
On a déjà plus d'une dizaine d'étudiants qui sont à la rue, contre un à la même période l'année dernière. Donc on se dit que si ça suit la même courbe que l'année dernière, les deux premières semaines de septembre vont être catastrophiques. Nous, on a eu quand même beaucoup d'étudiants qui nous ont confié ne pas avoir trouvé un job cet été, ce qui fait que le budget moyen pour trouver un logement à la rentrée diminue. L'année dernière, sur les personnes qui venaient pour notre dispositif, le budget moyen était de quasi 300 euros, alors que là, on tourne plus autour des 200.
Un constat partagé par la Fondation Abbé Pierre qui, déjà pendant le confinement, a dû débloquer des chèques-services pour aider certains étudiants en difficulté. Christophe Robert est le délégué général de l'association.
Le fait qu'ils rencontrent des difficultés pour trouver des petits jobs et le fait qu'il y ait aussi dans les villes étudiantes des coûts du logement qui sont considérables, mais des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'étudiants en énorme difficulté pour cette rentrée, les prix du logement n'ont pas baissé en quelque sorte, et notamment celui des petits logements étudiants. Donc là, il y a un sujet majeur qui nous inquiète de façon très très importante à la Fondation Abbé Pierre.
En France, on estime que près de 20% des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté, un chiffre qui semble le premier à gonfler avec la crise sanitaire.
Et la Fondation Abbé Pierre fait partie des associations de solidarité qui seront reçues après-demain par la ministre chargée du logement, Emmanuelle Wargon. Et pour les étudiants, mais aussi pour les collégiens et les lycéens qui devront porter obligatoirement un masque en cours, faut-il distribuer gratuitement ces équipements? Le député LREM des Landes, Lionel Cos, soutenu par plusieurs de ses collègues, a écrit en tout cas en ce sens à Emmanuel Macron, Jean Castex et Jean-Michel Blanquer, chiffrant à 150 millions d'euros le coût d'une telle opération sur 3 mois. Pour l'instant, le ministre de l'Éducation nationale n'entend pas aller au-delà d'une aide ciblée pour les familles les plus modestes, estimant que le masque est un vêtement ou une fourniture comme une autre. En attendant, certaines collectivités locales prennent les devants et mettent la main au portefeuille, comme l'Essonne et son président du conseil départemental, le LR François Durovray, qui débloque 1 million d'euros pour fournir des masques lavables dès la semaine prochaine à 70 000 collégiens.
Pour certaines familles, d'abord, c'est compliqué d'un point de vue budgétaire. La décision a été prise, voici quelques jours seulement, pour une application à la rentrée. Donc, en Essonne, nous avons pris la décision de fournir gratuitement 5 masques aux 70 000 collégiens. C'est un premier équipement. Nous estimons qu'ensuite, c'est aux familles d'assumer cette responsabilité, mais en veillant toujours à ce qu'aucun élève ne soit exclu de l'école parce qu'il ne porterait pas le masque. Concrètement, avec cette fourniture, les élèves ont la capacité d'être protégés quasiment la moitié de l'année. Mais il est clair que ce ne sont pas des dépenses, 1 million d'euros que nous pourrions assumer ad vitam aeternam. Franchement, je crois qu'aujourd'hui, on est à un moment de l'histoire de notre pays où chacun doit se poser la question de savoir ce qu'il peut faire de bien pour la collectivité. En tant qu'élu, je me pose cette même question et je me dis que j'ai ces masques à disposition, que ça sera utile pour la reprise de l'école. Et donc, je fais naturellement cette mesure. Encore une fois, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit.
François Durovray, président LR du conseil départemental de l'Essonne, il répondait à Yaël Gauz. De son côté, la préfecture des Bouches-du-Rhône pourrait prendre de nouvelles mesures pour endiguer une nouvelle vague de Covid-19, peut-être réduire les horaires d'ouverture des bars ou des restaurants. Des forces de l'ordre supplémentaires pourraient être déployées pour faire respecter les gestes barrières dans l'espace public. La Provence, Alpes-Côte d'Azur d'ailleurs et l'Île-de-France sont désormais considérées comme des zones à risque par l'Allemagne en raison du nombre élevé de cas d'infection au Covid-19. Berlin déconseille tout déplacement non indispensable dans ces régions françaises où le nombre de nouvelles infections dépasse le plafond de 50 cas pour 100 000 habitants. L'Espagne franchit, elle, le seuil de 400 000 cas de Covid-19. 46 000 nouveaux détectés en une semaine seulement, des hospitalisations multipliées par 10 en 2 mois, 135 morts durant les 7 derniers jours. Les jeunes adultes sont particulièrement touchés depuis la fin du confinement et le début de l'été. La correspondance à Madrid de Marilène Ballestero.
L'heure est à l'inquiétude en Espagne. Dans la plupart du territoire, les cas ne cessent d'augmenter inexorablement. Les réunions de famille et les jeunes adultes sont dans la ligne de mire des autorités espagnoles, les principaux touchés désormais par le Covid-19. D'ailleurs, le profil des personnes contaminées a considérablement changé ces derniers mois, comme l'a rappelé hier Fernando Simón, l'épidémiologiste porte-parole du gouvernement espagnol pour le Covid-19.
L'âge moyen a beaucoup baissé, en passant de 63 ans au plus fort de la pandémie à 38 ou 39 ans actuellement. Et sur les 2-3 dernières semaines, on descend même à 35-36 ans. C'est positif car ce sont des personnes qui ont moins de risques d'être parmi les cas graves. Et on assiste quand même à une hausse très importante du nombre de patients jeunes. Alors même si proportionnellement le nombre de ces cas graves est très réduit dans ces tranches d'âge, ils vont forcément continuer à se produire.
Depuis la fin du confinement en Espagne, on observe un certain relâchement des comportements, notamment chez les jeunes, ce qui a poussé les autorités à refermer les discothèques et autres lieux de loisirs nocturnes le 14 août dernier, en provoquant la colère des professionnels du secteur. Des mesures pour tenter d'endiguer la résurgence de l'épidémie, mais pour l'heure, la plupart des indicateurs sont dans le rouge dans la plupart des régions. Le cas de Madrid inquiète tout particulièrement. Fernando Simón a déclaré hier que le gouvernement madrilène devra prendre des mesures drastiques si le taux de contamination empire à Madrid.
Marilène Ballestero en Espagne pour France Culture.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu, la filiale de Facebook en France, est épinglée par le fisc.
N'ayant pas déclaré de revenus depuis 2009 dans l'Hexagone, Facebook vient donc de recevoir la facture. Il devra, le groupe, s'acquitter de 106 millions d'euros d'arriérés d'impôts, dont 22 millions de pénalités. Même si Facebook essaie de se racheter une bonne conduite, le réseau social a encore des efforts à faire, Annabelle Grelier.
Les détails de l'accord conclu avec le fisc, nous n'en saurons rien, secret fiscal oblige. Le porte-parole de Facebook a toutefois précisé que la société avait décidé depuis 2019 d'inclure les recettes publicitaires issues des annonceurs français dans les comptes de sa filiale locale. Le chiffre d'affaires de celle-ci a ainsi pratiquement doublé en 2019 pour atteindre 747 millions d'euros. En 2018, Facebook avait annoncé que sa filiale française déclarerait l'intégralité de ses revenus réalisés dans l'Hexagone au fisc français, plutôt qu'en Irlande, où se trouve son siège européen. Cette année-là, déjà, Facebook avait ainsi payé 3 fois plus d'impôts en France que l'année précédente, versant 5 700 000 euros d'impôts sur les bénéfices en 2018 contre 1 960 000 euros en 2017. Depuis, le montant versé par la filiale française de Facebook au fisc français augmente d'année en année. En 2019, il s'élevait à 8 700 000 euros, soit une nouvelle augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. précédente. Si cela peut paraître beaucoup, ce n'est rien, estiment les experts. Le chiffre d'affaires que Facebook a déclaré avoir réalisé en France au fisc en 2019 serait deux fois moins élevé que son chiffre d'affaires réel, estimé lui à 1,3 milliard d'euros.
Et la France estime que les montants d'impôts acquittés par les géants du web dans les pays où ils sont présents s'avèrent souvent beaucoup trop faibles par rapport à leur poids économique réel, Annabelle.
La France a d'ailleurs joué sur ce dossier les francs-tireurs en instaurant l'été dernier une taxe sur les géants du numérique, la fameuse taxe GAFA, la taxe donc qui s'applique en attendant que les négociations en cours à l'OCDE aboutissent à un accord international. L'initiative française a toutefois déplu à l'Amérique de Trump, on s'en souvient, qui en représailles a instauré des taxes sur certains produits français comme le vin.
Donald Trump qui a été officiellement adoubé hier par le camp républicain aux États-Unis. Le président a fait le déplacement pour cette convention républicaine à Charlotte en Caroline du Nord. Courte visite pour saluer les 330 délégués qui avaient fait le déplacement. Donald Trump a dès l'ouverture du rassemblement dénoncé les risques de fraude pour l'élection présidentielle du 3 novembre prochain, accusant les démocrates de vouloir voler ce scrutin.
On les a déjà pris la main dans le sac en 2016. On verra bien ce qui se passe cette année parce qu'ils essayent encore quelque chose. Avec cette histoire de vote par correspondance, ces 80 millions de bulletins envoyés à des électeurs qui ne les ont même pas réclamés. Ça n'est pas juste, ça n'est pas bien. Et à mon avis, ce sera impossible à contrôler. C'est ce que je pense. Donc faites très attention. Surveillez bien ce qui va se passer parce que nous devons gagner. C'est l'élection la plus importante de toute l'histoire de notre pays.
Donald Trump officiellement investi par le Grand Old Party hier donc aux États-Unis pour la présidentielle de novembre prochain. Donald Trump traduit par notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips. La convention républicaine d'hier en Caroline du Nord qui a vu pendant 2h30 se multiplier les interventions de Donald Trump Jr. par exemple, ou encore de ce couple Patricia et Mark McCloskey que l'on avait vu l'été, au début de l'été dernier dans le Missouri, arme à la main, défendre leur maison, menacés des manifestants Black Lives Matter. Le mouvement aux États-Unis est ravivé au lendemain d'une apparente bavure policière dont un homme noir, Jacob Blake, aurait pu être victime dans le Wisconsin. Un nouveau drame donc qui ravive les braises encore fumantes de ce mouvement historique de protestation contre le racisme aux États-Unis. Quelques mots du temps de ce mardi 25 août, perturbé de la Bretagne vers le nord du pays, plus ensoleillé au sud. Les températures sont comprises ce matin entre 10 et 17 degrés en général, jusqu'à 23 près de la Méditerranée.